les élèves
de CM1,
CM2,
des écoles de bien.
Présent
les petites voix
de l'opéra.
Radio Campus 93.3.
Bonjour, bienvenue dans notre émission Les Petites Voix de l'Opéra.
Ben nous, on s'est intéressé à l'opéra, du coup on a fait du micro-trottoir sur l'opéra.
On fait partie de l'école Vincent de Létorix et on est dans le TAP Radio.
Et donc ma question c'est, qu'est-ce que vous voudriez aller voir à l'opéra ?
Plutôt un truc où il y a un petit peu de chant, de danse, peut-être avec un grand orchestre.
Plutôt de la danse.
Un opéra de Verdi ? Voilà.
Casse-Noisette ?
J'ai pas trop de culture en opéra, je t'avoue. Donc je sais pas. Plutôt un vieil opéra, comme on l'imagine à l'Opéra de Paris, ou genre une jolie pièce et un truc pas trop long.
Mais je pense que tout spectacle est bon à aller voir.
Moi plutôt pour le bâtiment lui-même, c'est ce que je disais, parce que concrètement à l'opéra, je sais pas trop ce qu'il y a de présenter.
On fait un micro-trottoir pour Radio Campus et on voudrait vous poser une question sur l'opéra.
Qu'est-ce que vous aimez dans l'opéra ?
J'aime bien la musique et le décor surtout.
L'opéra, c'est quand même mieux que le cinéma parce que c'est vivant.
J'ai jamais mis les pieds, mais je trouve architecturalement c'est très 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 joli.
Ah, j'aime beaucoup la musique, les costumes, le bon moment qu'on passe en écoutant de la musique. Voilà, il y a souvent des beaux sentiments forts. Il y a un côté divertissant aussi.
Excusez-moi, est-ce que vous avez 2 petites minutes devant vous ? Avec qui aimeriez-vous aller à l'opéra ?
Mon mari, voilà.
À l'opéra, avec des amis proches.
Alors, avec qui j'aimerais aller à l'opéra ? Avec un grand chanteur, tiens, pourquoi pas ?
Je pense à ma mère.
Je sais pas, mon épouse, je dirais.
Avec mon fiancé, si j'en avais un.
Avec mon fils qui est là.
Avec ma compagne.
Avec Patrick Bruel.
Aujourd'hui, on a rencontré Rachel, qui travaille à l'opéra.
Alors, je m'appelle Rachel, bonjour à tous.
Et vous faites quoi dans l'opéra ?
Alors, moi je travaille pour Clermont-Auvergne Opéra, qui est une association qui crée la saison lyrique à Clermont-Ferrand, et je suis médiatrice culturelle.
Est-ce qu'il y a des habitués qui viennent à l'opéra ?
Ah oui, heureusement, on a des fidèles abonnés même à l'opéra, des personnes qui viennent régulièrement voir nos spectacles, voire même des personnes qui achètent tous les spectacles de toute la saison, donc ils viennent voir tous nos spectacles. Ils en manquent pas un.
Y a-t-il des pièces interdites aux enfants ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a des spectacles qui sont plutôt pour les adultes. Et en règle générale, sur notre communication, que ce soit sur nos brochures ou même quand on fait le lien, la promotion du spectacle via les journalistes, comme vous a indiqué Marie, on précise toujours à partir de quel âge et le spectacle. Voilà, parce qu'il y a des spectacles, des fois, qui sont pas forcément très simples pour les enfants ou qui durent très longtemps aussi. On a des opéras qui durent 2h30, 3h. Donc, quand on est jeune, on ne peut pas rester assez longtemps concentré sur le spectacle et assis sur son siège. Donc, voilà. Donc, pour un tas de raisons différentes, il y a en effet un âge préférentiel pour les spectacles.
À partir de quel âge on peut faire de l'opéra ?
Ah, très bonne question. Alors, tu parles du côté artiste, du coup, je suppose. Hein ? Au niveau du chant de l'opéra, il y a des artistes qui commencent très très jeunes. À partir de 4-5 ans déjà, ils commencent à s'intéresser, que ce soit à la musique, donc genre piano, violon, autre instrument, et puis aussi au chant. Voilà, donc nous, on a le conservatoire à Clermont-Ferrand qui a une section chant lyrique. Pauline pourrait peut-être t'en dire plus parce qu'elle fait du chant au conservatoire. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est. À partir de 6-7 ans, je pense.
Ouais, mais je sais qu'en fait, quand on fait du chant lyrique, le mieux, c'est de commencer tard, parce que la voix n'a pas mué. Donc il faut attendre parfois 18 ans, 20 ans, et c'est vraiment à 20 ans qu'on aura sa voix, sa vraie voix.
Est-ce que c'est possible qu'il y ait un animal dans les spectacles ?
Ah oui, en effet. Alors on n'en a pas eu beaucoup, on n'a pas eu accueilli. Alors moi ça fait 10 ans que je suis ici, donc j'ai vu quand même pas mal de spectacles. Il y en a un qu'on a accueilli qui s'appelait Le Voyage dans la Lune, composé par Jacques Offenbach. Et dans ce spectacle, on avait un chien. Voilà, un vrai chien qui s'est même fait saluer, comme tous les autres acteurs à la fin de la pièce. Il a été applaudi beaucoup, beaucoup. Et sinon, après, c'est souvent des faux quand même, relativement beaucoup, que ce soit les animaux ou les fruits ou les choses à boire, à manger sur scène, qui font partie du spectacle, sont souvent voilà, des leurres. Hein. C'est souvent des choses fausses.
Est-ce que vous prenez déjà un animal dressé ou vous le dressez ?
Alors, en général, c'est un animal qui fait partie de la troupe, donc de la compagnie qu'on accueille, et donc c'est eux qui s'en occupent, hein, qui le dressent. Souvent, c'est des animaux, je pense, qui sont attachés à une personne. Par exemple, c'était peut-être le chien d'un des comédiens, je pense.
Comment vous faites lorsqu'un chanteur oublie son texte ?
Ah, très bonne question aussi. Alors, ça arrive assez, je ne vais pas dire souvent quand même, parce que souvent, ils ont répété beaucoup, beaucoup. Donc, logiquement, ils n'oublient pas leur texte. Comment ils font ? Bah, ça, c'est un peu la gestion du stress de l'artiste, hein, du trac. Et quand ils ont des trous de mémoire, en général, eh bien, il y a toujours quelqu'un, que ce soit à la technique, donc en coulisses, qui suit en fait le déroulé de l'histoire avec le livret et donc du coup toutes les paroles qui sont écrites, donc du coup qui peut souffler comme ça des coulisses le texte, comme ça il le retrouve assez facilement. Ou aussi, ce qui est pratique pour les chanteurs d'opéra, surtout quand ils chantent pas en français, quand ils chantent en italien ou en allemand, eh bien c'est que les spectateurs comprennent pas forcément bien l'italien et l'allemand, et donc du coup ils peuvent faire des petits vocalises, tu vois, et ça passe inaperçu, hein, ou dire n'importe quoi en fait, et ça passe inaperçu. Nous, on va pas entendre, on va pas faire attention. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le hall d'entrée, est-ce que vous avez des remarques là, justement, c'est...
Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive partout ?
Des escaliers.
Des escaliers, ouais.
Vous avez une symétrie, vous savez ce que c'est une symétrie ?
Oui,
ça en maths. Dans le hall d'entrée, parce qu'on a deux escaliers d'honneur, des grands escaliers blancs en marbre, qui sont très décorés, qui desservent en fait les meilleures places. Les meilleures places qui étaient autrefois aussi les places les plus chères. Donc c'était les personnes les plus riches qui passaient par l'escalier d'honneur. Et ensuite, on a les deux petits escaliers un peu plus sombres, en pierre de Volvic, donc un peu plus noir en effet, qui montent, eux, jusqu'aux deuxième et troisième galeries. Est-ce que vous savez ce que c'est des galeries ? Ça ressemble à quoi ?
Aux étages.
Oui, c'est ça ? C'est ce que tu voulais dire ? C'est ça, c'est en fait, c'est simplement des étages. On a trois étages dans cette salle, et les 600 spectateurs, donc on a 600 sièges dans cette salle, qui sont répartis au rez-de-chaussée, on va appeler ça l'orchestre, au premier balcon, donc première galerie, et au deuxième et au troisième galerie. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre là dans ce hall d'entrée au niveau des décorations, au niveau des décors ? Le plafond, oui, qu'est-ce qu'il y a au plafond ? Des sculptures, qu'est-ce qui est sculpté ? Des feuilles, oui. Alors ça, on va en retrouver beaucoup, beaucoup des feuilles dans les décors de ce théâtre. Déjà même, je vous ai dit, les grilles, hein, des portes d'entrée qui ressemblent à des grandes feuilles, des grandes branches, hein, de couleur verte. Et ensuite, on va retrouver aussi des feuilles de laurier tout là-haut. Et puis des grandes feuilles qu'on appelle des feuilles d'acanthe. L'acanthe, c'est une plante, une grande plante qui est d'origine grecque, qui vient de Grèce. Et les grandes feuilles d'acanthe, vous les retrouvez notamment au niveau de la fresque tout là-haut, juste au-dessus des colonnes. Vous avez en fait des grandes feuilles d'acanthe qui sont un petit peu roses et dorées. Et au centre, vous avez un grand bouquet de fleurs qui est gardé par deux dragons. Vous les voyez, ces dragons ? Vous les voyez, les deux têtes de dragons ?
la bouche ouverte un petit peu pour aller un petit temps. On va en salle, du coup ? Oui ? Allez.
On va prendre les escaliers d'honneur.
Bah là, on va en salle. Là, on est en train de monter les escaliers. Là, on va dans parterre orchestre. Parterre orchestre. C'est immense. On voit plein de détails. C'est superbe.
Les deux premiers rangées, là, ici, les deux premières rangées de sièges à l'opéra sont en fait des sièges démontables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut dévisser là ces sièges, les mettre de côté, et le sol qui est différent, qui est noir, la plateforme noire, est mobile. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut monter et descendre. Et quand on la descend jusqu'à 2 mètres de profondeur, donc un peu plus bas, on voit apparaître ce qu'on appelle la fosse d'orchestre. La fosse d'orchestre, c'est là où les musiciens de l'orchestre, de tout l'orchestre, vont jouer pendant un opéra. Voilà. Pour ce spectacle-là, on n'a pas besoin de la fosse d'orchestre parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a un pianiste et un guitariste qui sont à la musique et eux, ils seront directement en place sur la scène, sur le plateau. Donc on n'a pas besoin de la fosse d'orchestre, c'est pour ça qu'on l'a fermée. On l'a fermé et on a mis deux rangs supplémentaires qui nous permettent d'accueillir 30 spectateurs en plus.
Pourquoi il y a plein de rideaux là ? Les noirs.
Alors les rideaux noirs, c'est une bonne question, c'est ce qu'on appelle des pendrillons. Donc les pendrillons permettent en fait sur le côté et dans le fond de la scène de faire comme une boîte noire, donc une grande boîte noire, pour que déjà on ne voit pas tout ce qui est techniques, donc les machines, tous les câbles aussi qui pendouillent par là en coulisses, les sécurité incendie, je vois les extincteurs là-bas et tout ça. Donc tout ça c'est caché par les rideaux noirs. Donc là ils sont en hauteur parce qu'ils sont en train de travailler, mais pendant le spectacle bien sûr les rideaux seront baissés de manière à cacher tout l'espace derrière qui n'est pas très joli et à faire ce qu'on appelle une boîte noire. Et ensuite ça permet aussi de cacher les artistes et les techniciens qui sont derrière. Ça délimite en fait ce qu'on appelle les coulisses. Peut-être vous avez entendu parler de ce mot, hein, les coulisses. Ce qu'on appelle les coulisses, c'est en fait tout ce qu'il y a derrière les rideaux noirs sur les côtés. Voilà, c'est ça les coulisses. On est caché un petit peu par les rideaux.
On voit beaucoup de sculptures, comme on l'a déjà dit, sur les murs et sur le tour de la salle, sur les balcons. Et on voit des rideaux surtout vers la partie noire. Donc la partie noire, c'est là où les musiciens des fois viennent jouer, mais là pas beaucoup, là où voilà l'orchestre vient jouer, mais pas beaucoup là. Et on voit beaucoup de sculptures, mais surtout vers l'orchestre, on voit une grosse tête comme un lion tout en haut. On voit une sorte de signification de croix avec un lion.
Il y a un dieu, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu la mythologie grecque, ça vous dit quelque chose ? C'est des légendes avec des dieux et des déesses. Et en fait, il y a un dieu tout là-haut qui est représenté, qui s'appelle Apollon. Peut-être ça vous parle, ce prénom, Apollon. Apollon, en fait, c'est le grand dieu de la musique et des arts. Il est entouré de musiciens. Vous allez sans doute le reconnaître tout là-haut. C'est celui qui est assis sur son nuage avec une auréole dorée, une couronne dorée. Et il est entouré de musiciens. Vous les voyez, les musiciens ? Oui. Il y a quoi comme instrument de musique que vous reconnaissez ?
Oui ? Il y a une harpe.
D'autre côté.
Il y a une harpe. Quoi d'autre ? Des trompettes, oui, des trompettes. Et puis, il y en a un autre, peut-être vous connaissez le nom ou pas.
C'est un chœur de...
C'est une sorte de petite harpe. Une mini-harpe, ouais. Est-ce que tu connais le nom ? Est-ce que vous avez tous vu ou lu Astérix et Obélix ?
Non.
Non, vous connaissez pas ?
Oui ?
Vous connaissez donc un petit peu. Vous avez déjà vu. Alors, vous avez sans doute déjà vu cet instrument quelque part.
Oui, c'est souvent... Ah oui, c'est après, il faut comme ça, là. Ah oui, celui qui chante tout le temps, là.
Exactement, celui qui chante tout le temps, oui.
C'est l'idée de Victorien. C'est une lyre ?
Exactement, c'est une lyre, tout à fait. La lyre, en fait, c'est le symbole un petit peu de la musique. C'est le symbole du dieu de la musique, donc dieu Apollon, qui est tout là-haut, qui a toujours sa lyre près de lui et qui, permettait aux chanteurs, et notamment les chanteurs lyriques, les chanteurs d'opéra, hein, ça vient de ce mot-là aussi, de s'accompagner au chant, de s'accorder en fait. Là, sur ce spectacle-là, par exemple, sur Les Misérables, il y a un guitariste qui va donc jouer la musique et chanter. Eh bien, avant, on n'avait pas de guitare à l'époque. La lyre est née au XVIe siècle, à peu près. Et on chantait avec la lyre, donc, qui était en fait l'ancienne guitare. Voilà. Donc, ça permettait de chanter, de s'accompagner en chantant.
On va monter au premier étage. On arrive dans une salle verte et rouge.
On dirait que c'est un truc de château, une salle de château.
Il y a plein de cadres. Il y a Chabrier, Olson, Rameau.
Oh la vache, c'est super trop beau.
Il y a deux grands lustres immenses. Il y a plein de miroirs.
On est dans la salle qu'on appelle le foyer de l'opéra. Le foyer de l'opéra, c'est donc un espace un petit peu déjà très chargé au niveau des décors, très décoré, chaleureux, où on retrouve des fauteuils principalement, et puis aussi des tables. Et c'est là le moment, pendant l'entracte, où les spectateurs vont se rejoindre ici pour boire un verre, pour discuter. Voilà, donc c'est le temps un petit peu convivial, la pause, hein, le temps du spectacle où les spectateurs vont donc venir ici, dans le foyer de l'opéra. Oui.
Pourquoi il sert le lion là-bas, au-dessus ?
Alors, tout là-haut, celui qui porte les lustres n'est pas un lion. Il ressemble à un animal, mais ce n'est pas un lion.
C'est une gargouille.
Presque un bélier.
C'est une chèvre là qui était...
Oui,
oui, je connais Tchaliki.
C'est ça, c'est un bouc en fait. C'est un dieu qui ressemble à un bouc et qui a donc des cornes dorées.
C'est Pan.
Voilà, tu veux nous le dire bien fort ?
Ben, c'est Pan.
Le dieu Pan. Donc on a vu Apollon tout à l'heure et là c'est un autre dieu grec qui représente surtout la musique puisque c'est le célèbre inventeur de la flûte de Pan qui est posée, vous voyez, sur son ventre tout là-haut. Elle est faite, cette flûte, en fait avec plusieurs petits roseaux de tailles différentes assemblés par une petite corde. Il n'y a pas de trou comme la flûte à bec, hein, c'est une flûte où on souffle dedans comme un harmonica de droite à gauche. Voilà. Au niveau des décors, on voit aussi qu'il y a beaucoup de feuilles et de fleurs. Hein, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on a un décor très, très fleuri. Et bien sûr, les dorures qu'on retrouve un peu partout. Hein, tout ce qui est doré, qui brille. Oui.
C'est quoi cette... Dans l'entrée.
Alors, les têtes au niveau des portes d'entrée, vous allez voir, il y en a un petit peu partout. Il y a des femmes aussi, tout là-haut. En fait, ne symbolisent pas forcément grand-chose, mais c'est plus au niveau des décors. Donc le décorateur qui s'appelait Louis Retru, celui-ci, c'est pas le même que celui de la salle, c'est un autre décorateur. Louis Retru, qui a décoré cette salle, a voulu mettre des statues ou des visages de personnages dans les décors, ce qui se fait beaucoup d'ailleurs au niveau des fontaines ou des statues que vous pouvez voir aussi en centre-ville ou un peu partout dans les villes. Vous savez, quand on va voir en général une fontaine, on a aussi des têtes comme ça, un peu, de personnages, voilà. Ça s'appelle des mascarons, le nom précis.
Qui sont les personnages au-dessus des portes ?
Alors, au-dessus des portes, vous avez trois petits médaillons qui représentent des portraits de trois hommes qui ont réellement existé. Pour le coup, eux, ce ne sont pas des dieux. Hein. Ce ne sont pas des dieux grecs, ce sont des compositeurs de musique. Est-ce que vous savez ce que c'est un compositeur de musique? Oui, non?
Oui.
Alors, c'est quoi?
C'est celui qui crée les musiques?
Oui, exactement. Le compositeur, il va créer, inventer la musique. Hein. Et là, vous avez donc trois compositeurs français qui ont tous les trois un lien avec la ville de Clermont. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils sont représentés, d'ailleurs. Donc, vous avez le portrait de Jean-Philippe Rameau, qui était parisien, mais qui venait souvent à Clermont, notamment parce qu'il, en plus d'être compositeur, il était musicien et il jouait de l'orgue. Vous savez ce que c'est un orgue? C'est quoi un orgue?
L'église.
Ouais. C'est ça. C'est souvent dans les églises ou dans les cathédrales. On a donc, il venait souvent jouer à la cathédrale de Clermont. Quand vous rentrez à la cathédrale, vous allez voir un grand orgue, en fait, qui est un peu une sorte de piano géant avec des grands tubes cylindriques qui résonnent beaucoup, beaucoup. Hein, donc Jean-Philippe Rameau venait jouer et donner des concerts à la cathédrale de Clermont très souvent. George Onslow, qui est donc lui né à Clermont, y a passé toute sa vie. Et puis Emmanuel Chabrier, qui n'était pas très loin, qui est né à Ambert et qui a aussi vécu sur Clermont et qui a aussi donné son nom, Emmanuel Chabrier, au Conservatoire de musique de Clermont. Alors je vois qu'il y a Marie qui vient de nous rejoindre, qui fait partie de notre équipe et qui est donc attachée de presse, qui travaille pour Clermont Auvergne Opéra.
Moi, je suis attachée de presse à Clermont Auvergne Opéra. Ça veut dire que je fais le lien avec les journalistes. Quand on doit parler, faire la promotion d'un spectacle ou informer les gens qu'on va donner telle représentation, il faut que la presse soit un relais et que vous, vos parents, ben, ils retrouvent soit dans les journaux ou à la radio ou à la télé, des informations sur nos spectacles. Et donc moi, je fais le lien, je suis l'intermédiaire entre l'opéra et les journalistes. Parce que si on fait venir des artistes, là, ils sont en train de monter le décor, les chanteurs, ils répètent leur partition et tout, et si au bout du bout, personne vient au spectacle,
c'est un peu dommage.
Donc, il faut le faire savoir. C'est partie de mon métier et du rôle de l'opéra. Vous avez déjà entendu un opéra? Ouais, c'est vrai?
Oui.
Ah, à quelle occasion?
C'était justement avant de venir ici. On a écouté des petits extraits d'opéra.
Ah,
on a
d'accord.
Écouté Carmen.
Mais vous êtes déjà venu à l'opéra voir un spectacle d'opéra?
Non.
Pas encore?
C'est pas nous.
Ah, mais c'est certains, si. Oui, vous êtes.
Certains
si,
sont
il y en a certains
voir.
Qui sont venus avec leur professeur.
Ah, ouais.
Nous venons d'entrer dans les coulisses. La superficie est merveilleuse. Beaucoup de câbles sont là, mais nous allons voir le reste.
Qu'est-ce qu'on voit d'autre en coulisses? Qu'est-ce que vous voyez en coulisses? Allez-y, si vous voulez commenter les coulisses.
On voit des écrans. Aussi, on voit une horloge. Aussi, on voit beaucoup de lampes, de lumière, de projecteurs. Et on peut les faire bouger. Du coup, il y a les loges où les artistes... Ils vont se préparer.
Clermont Auvergne Opéra, l'association pour laquelle je travaille, va engager une régisseuse. Une régisseuse, c'est quoi le métier de régisseur? Vous allez rencontrer Mathilde tout à l'heure qui est à la régie. La régisseuse, c'est elle qui va coordonner un petit peu tous les techniciens et aussi gérer le planning technique. Voilà, toutes les heures quasiment sont comptées. Là, par exemple, ce matin, sur le planning technique, ils ont mis 9h midi, installation, montage du décor, préparation, lumière, etc. Hein, donc, c'est toute la phase technique. Voilà, et tout est noté jour par jour, heure par heure, tout ce qui se passe. Voilà, ça, c'est le régisseur aussi qui s'occupe de tout ça.
Bonjour, comment vous appelez?
Mathilde.
Vous faites quoi comme travail à l'opéra?
Alors moi, je suis régisseuse générale et pour Clermont Auvergne Opéra.
C'est quoi régisseuse?
Alors la régie générale, je m'occupe en fait de la coordination. Je fais le lien entre Clermont Auvergne Opéra et puis l'opéra et les compagnies qui viennent à l'opéra pour jouer leur spectacle. Et donc, je m'occupe de faire le planning, de vérifier qu'on a bien toutes les informations techniques pour monter le décor et pour que tout se passe bien. Et j'accueille aussi voilà, les techniciens quand ils arrivent et je fais le lien avec les techniciens de l'opéra.
Est-ce que c'est compliqué ce travail de l'opéra ?
C'est complexe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... moi, j'ai plein d'informations à gérer. Je fais le lien entre plein de personnes différentes, donc il ne faut pas oublier des choses, etc. Mais après, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu de l'opéra et du théâtre. Du coup, c'est des choses que je connais. Mais oui, ça peut être compliqué parce que des fois, on a des choses qui sont compliquées à mettre en place. Bon, là, des choses comme la patience que vous avez vue ce matin, voilà. Mais après, c'est pas moi qui la mets en place. Vous avez vu, c'est vraiment les techniciens qui font ça.
Est-ce que vous avez du matériel spécial qu'on ne retrouve pas dans la vie quotidienne ?
Alors, à l'opéra, oui. Et puis, dans le spectacle, en effet, il y a du matériel qu'on ne retrouve pas dans la vie quotidienne. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, la patience. Je vais revenir à la patience que vous avez vue ce matin. En fait, c'est une énorme tringle à rideau. Mais dans la vie quotidienne, on n'a jamais des aussi grandes tringles à rideau. Donc ça, c'est des matériels spécifiques à l'opéra.
Quels sont les effets spéciaux que vous pouvez utiliser ?
Alors, les effets spéciaux, on peut avoir la fumée. On peut faire les éclairs, on peut faire le vent, on peut faire plein de choses comme ça. On peut reproduire. Mais après, les effets spéciaux, on peut faire plein de choses. Moi, quand je travaillais à l'Opéra de Strasbourg, il y avait un monsieur qui faisait tous les effets spéciaux. Il faisait, par exemple, on avait un faux poisson. Il avait mis dans le poisson, il avait mis un petit moteur pour qu'il faisait que le poisson il se tortillait. Donc ça peut être un effet spécial. Voilà, donc on peut faire plein de choses. Ça dépend de l'imagination des créateurs en fait, qui viennent avec leur projet. En fait.
Est-ce qu'il y a des spectacles où il y a de l'interaction avec le public ?
Oui, mais ça c'est pareil, c'est les metteurs en scène qui choisissent ça en fait. Par exemple, la semaine dernière, il y avait un petit spectacle pour les enfants de 0 à 2 ans, et du coup, ils étaient sur le plateau. Et en effet, la chanteuse et le danseur, ils venaient être en interaction avec le public, avec différents. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire, mais oui, il y a des metteurs en scène qui choisissent. Soit d'interpeller le public dans la salle, soit carrément de changer le rapport et de mettre le public sur la scène.
Prenez-vous toujours du plaisir à regarder les spectacles ?
Moi, je suis en coulisses, en fait, quand le spectacle y joue. Donc, je vois jamais le spectacle de face. Je sais pas vraiment... je prends toujours plaisir à regarder le spectacle, mais je le vois jamais de face.
Combien de temps durent vos répétitions ?
Eh bien, ça dépend de chaque spectacle, en fait. Là, par exemple, sur Les Misérables, qui est en ce moment, donc on monte le décor ce matin, cet après-midi, ils règlent la lumière, et ce soir, ils répètent. Et puis, ils vont jouer demain matin. Donc là, ils vont répéter 3 ou 4 heures. Mais ça dépend, en fait, là, on est sur une compagnie qui a déjà monté son spectacle avant. Par exemple, après, on a eu L'Enlèvement au Sérail qui est venu, c'était une création, donc là, ils ont répété pendant 3 semaines. Voilà, donc ça dépend vraiment des projets.
Est-ce qu'il y a des scènes qui sont plus ou moins agréables ou,
Des théâtres
ouais.
Qui sont plus ou moins agréables ? Oui, alors déjà pour les chanteurs, il y a des scènes qui sont plus ou moins agréables au niveau de l'acoustique. Ouais. Et puis après, au niveau du plateau, oui, on a des tout petites scènes, comme là, L'Enlèvement au Sérail, on va dans des scènes où c'est presque des salles municipales. Il y a des salles qui sont quand même oui, plus agréables que d'autres. Les opéras, bon, c'est vrai que là, le plateau, il est assez grand. On a les dégagements sur les coulisses. Enfin, voilà. Et puis après, il y a aussi le côté humain. Donc, les équipes, est-ce qu'elles sont vraiment spécialisées en théâtre ou est-ce que c'est des... Voilà. Mais ici, c'est très chouette. C'est un joli plateau, déjà.
Voilà. Okay. Là, on arrive dans les vestiaires.
Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous êtes rentrés par l'entrée principale, pour les spectateurs, qu'il y avait une deuxième entrée au théâtre, l'entrée des artistes. L'entrée des artistes, donc, elle est juste au bout de la porte. Et donc, les artistes arrivent directement ici et ils vont se répartir dans les loges qui sont situées dans ce couloir et aussi au-dessus. Vous voyez, il y a un étage où on a aussi des loges. Donc au total, on en a 15. Il y a des grandes, il y a des petites, mais elles sont toutes faites pareilles. Et elles nous permettent donc d'accueillir tous les artistes. Quand ils arrivent, vous voyez, ils apportent des petites caisses aussi qui suivent le spectacle, où il y a tous les accessoires pour les personnages pour se costumer et aussi se maquiller, se préparer. Voilà, donc là, par exemple, vous avez un portant où il y a plein d'éléments de costume, des vestes, des robes, donc qui seront utilisés pour le spectacle. On va rentrer dans la loge numéro 1 et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a des perruques, wow, des chapeaux, des choses à mettre. Voilà. Donc je vous laisse.
Il y a un téléphone, il y a une perruque, il y a des chapeaux et aussi il y a un miroir quand même pour qu'on puisse se voir et voir si on est bien.
Les artistes sont dans les loges, enfin dans l'espace foyer ici. Ils ont besoin de savoir en temps réel ce qui se passe. Parce que, par exemple, les artistes, pendant un spectacle, ils ne sont pas toujours sur scène. Des fois, ils vont sortir, hein, et puis ils vont avoir un peu le temps. Donc, ils vont venir ici, discuter ou manger quelques gâteaux, hein, parce qu'ils mangent beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucre, pour avoir de l'énergie sur scène. Et donc, du coup, ils vont pouvoir venir ici et garder un coup d'œil toujours sur ce qui se passe, parce que c'est important pour eux de savoir ce qui se passe pour aller tout de suite sur la scène si on a besoin d'eux.
Merci de nous avoir écoutés.